Ces 7 photos furent l'armature autour de laquelle Brady commença à reconstruire son identité. Alors qu'il s'y attelait, les murs de son sous-sol, sa cachette, son refuge contre un monde stupide et indifférent, s'effacèrent peu à peu. Il entendait d'autres voix derrière les murs. Et il comprit que certaines étaient celles d'infirmiers, certaines de médecins, et d'autres, peut-être, de représentants de la loi, venant s'assurer qu'il n'était pas en train de jouer la comédie. Il la jouait, et il ne la jouait pas. La vérité, comme celle qui entourait la mort de Frankie, était complexe. Au début, il ouvrait les yeux seulement quand il était certain d'être seul, et il ne le fit que rarement. Il n'y avait pas grand-chose à regarder dans sa chambre. Mais tôt ou tard, il devrait se réveiller complètement. Et lorsque cela arriverait, personne ne devrait savoir qu'il pouvait penser, alors qu'en fait, il pensait plus clairement chaque jour. S'il savait, il le traînerait en justice. Brady ne voulait pas passer en justice. Pas quand il se pouvait qu'il ait encore des choses à faire. Une semaine avant que Brady parle à l'infirmière Norma Wilmer, il ouvrit les yeux au beau milieu de la nuit et regarda le flacon de solution physiologique suspendu à la potence près de son lit. Par ennui, il leva la main pour le toucher. Peut-être même le faire tomber par terre. Il n'y parvint pas, mais le flacon se balança sur son crochet avant que Brady ne se rende compte que ses deux mains étaient toujours posées sur le couvre-lit, les doigts légèrement recroquevillés en raison de l'atrophie musculaire que la rééducation pouvait retarder, mais pas stopper. Pas quand le patient dormait du profond sommeil de l'onde delta. « C'est moi qui ai fait ça ?» Il essaya à nouveau, et ses mains ne bougèrent pas davantage, bien que la gauche, sa main dominante, tremblât un peu. Mais il sentit sa paume toucher le flacon de solution saline et le remettre en mouvement. « Intéressant », pensa-t-il, puis il se rendormit. Ce fut sa première vraie nuit de sommeil depuis que Hodges, ou peut-être était-ce son nègre, l'avait cloué dans ce foutu lit d'hôpital. Les nuits suivantes, tard, quand il était sûr que personne n'entrerait et ne le verrait, Brady faisait des expériences avec sa main fantôme. Souvent, ça lui faisait penser à un vieux camarade de lycée appelé Henry le Crochet Crosby, qui avait perdu sa main droite dans un accident de voiture. Il avait une prothèse, une pâle imitation qu'il portait avec un gant, mais il venait parfois au lycée avec un crochet en acier inoxydable à la place. Henry affirmait qu'il était plus facile d'attraper les choses avec le crochet, et en bonus, ça dégoûtait les filles quand il se glissait derrière elles et leur caressait un mollet ou un bras dénudé avec. Un jour, bien qu'il eût perdu sa main il y avait de cela 7 ans, il avait dit à Brady qu'elle le démangeait parfois, ou le picotait, comme si elle s'était engourdie et qu'elle était en train de se réveiller. Il lui montra son moignon, rose et lisse. « Quand j'ai des fourmis comme ça, je jurerais que je peux me gratter la tête avec. » Maintenant, Brady savait exactement ce que ressentait Henry le Crochet. Sauf que lui, Brady, pouvait se gratter la tête avec sa main fantôme. Il avait essayé. Il avait également découvert qu'il pouvait faire s'entrechoquer les lames du store vénitien que les infirmières baissaient pour la nuit. La fenêtre était trop loin de son lit pour l'atteindre, mais avec sa main fantôme, il y arrivait quand même. Quelqu'un avait posé un bouquet de fausses fleurs sur sa table de chevet. Il apprit par la suite que c'était l'infirmière-chef Becky Elmington, la seule personne ici à le traiter avec un minimum de gentillesse. Et il pouvait faire aller et venir le vase comme qui rigole. Il se souvint, non sans mal, sa mémoire était pleine de trous, du mot pour désigner ce genre de phénomène. Télékinésie. La faculté de déplacer des objets par la force de l'esprit. Seulement, le moindre effort de concentration lui provoquait de violents maux de tête, et son esprit ne semblait pas vraiment être aux commandes. C'était sa main gauche dominante. Sauf que celle qui reposait doigts écartés sur le couvre-lit ne bougeait jamais. Plutôt dingue. Il était sûr que Babineau, le médecin qui venait le voir le plus souvent, du moins avant, ces derniers temps il semblait s'être désintéressé de lui, serait aux anges. Mais c'était un talent que Brady avait l'intention de garder pour lui. Ça pourrait lui être utile par la suite. Mais il en doutait. Remuer les oreilles aussi était un talent, mais sans grande utilité apparente. Oui, il pouvait faire bouger les flacons sur le pied à perfusion, et agiter les stores, et renverser une photo. Il pouvait faire onduler les couvertures, comme si un gros poisson nageait en dessous. Parfois, quand un infirmier ou une infirmière était dans la chambre, il s'amusait à les surprendre avec un de ses tours. Mais il semblait que c'était tout ce que son nouveau don lui permettait de faire. Il avait essayé, en vain, d'allumer la télé suspendue au-dessus de son lit. Et il avait essayé, toujours en vain, d'ouvrir la porte de sa salle de bain. Il arrivait à attraper la poignée chromée. Il sentait sa dureté froide lorsqu'il refermait les doigts dessus. Mais la porte était trop lourde et sa main fantôme trop faible. Du moins, pour l'instant. Il avait dans l'idée que s'il continuait à s'entraîner, elle deviendrait plus forte. « Il faut que je me réveille, » pensa-t-il. « Ne serait-ce que pour avoir un peu d'aspirine pour cette putain de migraine interminable. Et aussi, pour manger de la vraie bouffe. Même un bol de crème anglaise d'hôpital serait un régal. Bientôt. Peut-être demain. » Mais il ne se réveilla pas, car le lendemain, il découvrit que la télékinésie n'était pas le seul nouveau pouvoir qu'il avait ramené de Dieu sait où. L'infirmière, qui venait presque tous les après-midi vérifier ses signes vitaux et presque tous les soirs le préparer pour la nuit, on ne pouvait pas dire pour le mettre au lit, vu qu'il était toujours au lit, était une jeune femme du nom de Sadie MacDonald. Elle était brune et jolie dans le style fade et sans maquillage. Brady l'avait observée à travers ses yeux mi-clos, tout comme il avait observé tous ses visiteurs depuis qu'il avait traversé le mur du sous-sol où il avait pour la première fois repris connaissance. On aurait dit qu'elle avait peur de lui. Mais il avait fini par réaliser que ça ne le rendait en rien spécial, car l'infirmière MacDonald avait peur de tout le monde. C'était le genre de femme qui s'enfuyait au lieu de marcher. Si quelqu'un entrait dans la chambre 217 pendant qu'elle s'acquittait de ses tâches, l'infirmière chef Becky Elmington par exemple, Sadie avait tendance à se faire toute petite dans un coin. Le docteur Babineau la terrifiait. Quand elle était forcée de se retrouver dans la pièce avec lui, Brady pouvait presque sentir le goût de sa peur. Et il se rendit compte que la formule n'était peut-être pas si exagérée que ça. Le lendemain du jour où Brady s'endormit en pensant à de la crème anglaise, Sadie MacDonald entra dans la chambre 217 à 15h15. Vérifia l'écran au-dessus de la tête du lit et nota des chiffres sur le porte-bloc accroché au pied du lit. Ensuite, elle vérifierait les flacons sur le pied à perfusion et irait chercher des oreillers propres dans le placard. Elle lui soulèverait la tête d'une main, elle était petite, mais elle avait de la force dans les bras, et remplacerait les vieux oreillers par les neufs. Ça aurait pu être en fait un travail d'aide-soignant. Mais Brady avait dans l'idée que MacDonald se trouvait en bas de la hiérarchie hospitalière, l'infirmière au bas du totem, pour ainsi dire. Il avait décidé d'ouvrir les yeux et de lui parler au moment où elle finirait de changer ses oreillers, quand leur visage serait le plus proche. Ça lui ferait peur, et Brady aimait faire peur aux gens. Beaucoup de choses avaient changé dans sa vie, mais pas ça. Peut-être même qu'elle crierait, comme l'avait fait une autre infirmière, quand il avait fait onduler son couvre-lit. Sauf qu'en allant vers le placard, MacDonald s'arrêta devant la fenêtre. Il n'y avait rien à voir en face, hormis le parking couvert. Pourtant, elle resta debout là pendant une minute, puis deux, puis trois. Pourquoi ? Qu'y a-t-il de si fascinant dans un putain de mur de briques ? Sauf qu'il n'y avait pas que des briques, réalisa Brady en regardant dehors avec elle. Il y avait de longues ouvertures à chaque niveau, et lorsque les voitures montaient la rampe d'accès, le soleil se reflétait brièvement sur leur pare-brise. Reflet, reflet, et encore reflet. Bon sang. Mais c'est moi qui suis censé être dans le coma, non? C'est comme si elle faisait une espèce de synco... Mais attends, attends une petite minute. En regardant dehors, avec elle? Comment est-ce que je peux regarder dehors avec elle alors que je suis allongé dans ce lit ? Il y eut une camionnette rouillée, suivie d'une Jaguar, sans doute un toubib friqué, et Brady comprit qu'il n'était pas en train de regarder avec elle, mais de regarder par elle. C'était comme contempler le paysage par la vitre passager, alors que quelqu'un d'autre conduisait. Et oui, Sadie MacDonald faisait bien une syncope, si légère qu'elle n'avait probablement même pas conscience de ce qui lui arrivait. C'était les flashs de lumière qui l'avaient causé, le reflet du soleil sur le pare-brise des voitures qui montaient. Dès qu'il y aurait une accalmie dans le trafic sur la rampe d'accès, ou que l'angle du soleil se modifierait un peu, elle en sortirait et se remettrait au travail. Elle en sortirait sans même savoir qu'elle en avait fait une. Brady le savait. Il le savait, car il était en elle. Il s'enfonça un peu plus et constata qu'il pouvait voir ses pensées. C'était incroyable. Il les voyait passer en clignotant dans un sens et dans l'autre, ça et là, en haut et en bas, se croisant parfois dans un flux vert foncé qui était, peut-être, il faudrait qu'il y réfléchisse, et très attentivement pour s'en assurer, l'essence même de sa conscience, son essentiel. Il essaya de s'enfoncer plus profondément afin d'identifier certaines de ses pensées poissons. Mais bon Dieu, elles filaient tellement vite. Et pourtant, quelque chose à propos des muffins qu'elle avait à la maison, quelque chose à propos d'un chat qu'elle avait vu dans la vitrine d'une animalerie, noir et blanc, avec une mignonne collerette blanche. Quelque chose à propos de cailloux? C'était bien des cailloux? Quelque chose à propos de son père. Et ce poisson-là était rouge. La couleur de la colère, ou de la honte, ou des deux. Alors qu'elle se détournait de la fenêtre et se dirigeait vers le placard, Brady ressentit une seconde de vertige. L'étourdissement passa, et il se retrouva à nouveau en lui-même, à regarder par ses propres yeux. Elle l'avait éjecté, sans même savoir qu'il était là. Quand elle le souleva pour lui placer deux oreillers en mousse avec des têtes toutes propres sous la tête, Brady garda le regard fixe sous ses paupières à demi fermées. Il ne parla pas, en fin de compte. Il avait vraiment besoin de réfléchir à tout ça. Les 4 jours suivants, Brady tenta à plusieurs reprises d'entrer dans la tête de ceux qui franchissaient le seuil de sa chambre. Il connut un bref succès une fois seulement, avec un jeune agent d'entretien venu passer la serpillière. Le gosse n'était pas mongol, le mot qu'utilisait sa mère pour qualifier les gens atteints de trisomie 21, mais c'était pas non plus un candidat pour Mensa. Il regardait les bandes humides et brillantes laissées par sa serpillière, les observant s'estomper une à une, et cela suffit à ouvrir le passage. Brady fit une visite éclair et inintéressante. Le gosse était en train de se demander s'il y aurait des tacos à la cafette ce soir. La belle affaire. Puis le vertige, l'impression de basculer. Le gosse l'avait recraché comme un pépin de pastèque, sans jamais ralentir le mouvement de pendule de sa serpillière. Avec les autres personnes qui entraient de temps en temps dans sa chambre, il ne connut aucun succès. Et ses échecs étaient bien plus frustrants que de ne pas pouvoir se gratter le visage quand ça le démangeait. Brady avait procédé à un inventaire de lui-même et ce qu'il avait découvert était consternant. Sa tête, en proie à de constantes migraines, était posée sur un corps squelettique. Il pouvait bouger, il n'était pas paralysé, mais ses muscles s'étaient atrophiés et déplacer sa jambe, ne serait-ce que de 5 ou 6 centimètres d'un côté ou de l'autre, demandait un effort surhumain. S'être retrouvé dans le corps de l'infirmière MacDonald, en revanche, lui avait fait l'effet de chevaucher un tapis volant. Mais s'il avait pu entrer en elle, c'était seulement parce que MacDonald avait fait une sorte de syncope. Rien de grave, juste assez pour entrouvrir une porte. Les autres semblaient disposer de défenses naturelles. Il n'avait même pas été foutu de rester plus de quelques secondes à l'intérieur du pousse-serpillière. Et si cette espèce d'attardé était un nain, il s'appellerait Simplet. Ce qui lui rappela une blague. Un étranger à New York demande à un beatnik « Comment on arrive à Carnegie Hall ?» Et le beatnik lui répond « Avec de l'entraînement, mec, avec de l'entraînement. » « C'est ce que je dois faire, » pensa Brady, « m'entraîner pour devenir plus fort. » Parce que Kermit William Hodges est dehors quelque part par là, et que le vieux Offrette croit qu'il a gagné. Je ne peux pas tolérer ça. Je ne le tolérerai pas. Et c'est ainsi qu'en cette soirée pluvieuse de mi-novembre 2011, Brady ouvrit les yeux, dit qu'il avait mal à la tête et réclama sa mère. Il n'y eut aucun hurlement. C'était le soir de repos de Sadie MacDonald. Et Norma Wilmer, l'infirmière de garde ce soir-là, était plus endurcie. Elle poussa néanmoins un petit cri de surprise et courut voir si le docteur Babineau était toujours dans le salon des médecins. Brady pensa « Voici le premier jour du reste de ma vie. » Brady pensa « Entraînement, mec, entraînement !»